Radio VSM, émission spéciale législative 2022.
Émission effectivement très spéciale sur Radio VFM, puisqu'à 4 jours du second tour des élections législatives, nous vous proposons ce soir le grand débat de l'entre-deux-tours dans la 5e circonscription du département. Bertrand Bouix et Valérie Arel, les deux finalistes de cette élection, face à face durant une heure pour échanger projet contre projet, pour vous permettre de vous faire votre opinion. Le grand débat de l'entre-deux-tours dans la circonscription du Bessin et de la Côte de Nacre, c'est sur Radio VFM et ça démarre maintenant.
Radio VSM, émission spéciale législative 2022.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Radio VFM. Nous avons choisi d'être à Bayeux ce soir au pied de la cathédrale dans un restaurant L'Assiette Normande et je remercie tout de suite Alexandra et Christophe Ollard, les propriétaires, pour leur accueil. Nous voulions être ce soir au cœur de cette 5e circonscription du Calvados pour vous présenter ce grand débat de l'entre-deux-tours des élections législatives. Débat important à 4 jours du second tour de scrutin, débat d'autant plus important que sur ce territoire du Bessin et de la Côte de Nacre, 46,68% des électeurs inscrits ont boudé les urnes dimanche dernier. Bonsoir Bertrand Bouix.
Bonsoir Julien Caillard.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bertrand Bouix, vous avez 52 ans, vous vivez à Bayeux, vous êtes pharmacien, vous êtes aussi depuis 5 ans le député de cette circonscription. Vous êtes candidat sous la bannière Ensemble, la coalition voulue par le président de la République Emmanuel Macron. Et vous êtes arrivé en tête dimanche du premier tour avec 27,85% des suffrages exprimés. Bonsoir Valérie Arel.
Bonsoir.
Et merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 49 ans, vous vivez à Côme, tout près de Port-en-Bessin. Vous êtes travailleuse sociale, vous œuvrez dans une association, vous êtes militante associative et syndicale et vous êtes la candidate de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, l'Union de la gauche construite autour notamment de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes arrivée en deuxième position du premier tour dimanche dernier avec 23,19% des suffrages exprimés. Ce soir, nous aborderons trois grands thèmes au cœur des préoccupations des électeurs sur notre territoire. D'abord, l'environnement et le climat, sujet sensible sur un territoire largement maritime. Ensuite, le pouvoir d'achat, bien sûr, sujet majeur à l'heure où beaucoup de nos concitoyens peinent à boucler les fins de mois. Enfin, les services publics, enjeu crucial alors que bon nombre d'habitants sur ce territoire, notamment en zone rurale, ont du mal à y accéder. Mais avant d'aborder tous ces sujets, je voudrais, en guise d'introduction, vous poser quelques questions très directes. Je voudrais d'abord savoir ce que vous avez retenu du premier tour de scrutin dimanche dernier dans cette circonscription. Je précise que le candidat du Rassemblement National, Philippe Chaperon, est arrivé troisième avec 19,04% des suffrages, que Cédric Nouvelot, le secrétaire départemental des Républicains, a pris la quatrième place avec 17,99% des suffrages et que les six autres candidats ont tous recueilli moins de 5% des voix. Valérie Arel, c'est vous qui avez la parole. Ainsi, on a décidé le tirage au sort.
Moi, ma première remarque, c'est que la gauche et l'écologie, quand elle est unie, ça marche. La preuve, c'est plus de 23% de voix. C'est 11 255 voix pour la NUPS et donc c'est 11 255 bulletins de vote Valérie Arel. Ça a bien fonctionné. Il y a un potentiel NUPES dans la circonscription de 18 000 voix. Donc, c'est 18 000 voix du premier tour de la présidentielle sur la circonscription. Donc, je veux mobiliser ce potentiel cette semaine. Et ce matin, par ailleurs, j'étais à Isigny. Effectivement, on peut le noter aussi, c'est que la droite est extrêmement divisée. Même si M. Bouix arrive en tête, il a beaucoup perdu depuis 2017 et on peut saluer quand même le bon score de M. Nouvelot par rapport à la moyenne nationale des Républicains et notamment par rapport au score de Valérie Pécresse qui était inférieur à 5%. Donc quand même, c'est à noter un score très important pour ce parti politique.
Je vais faire tourner la parole. Oui, Bertrand Bouix, que retenez-vous de ce premier tour ?
Alors tout d'abord, moi je souhaite remercier tous les électeurs qui se sont mobilisés à l'occasion de ce premier tour. Je pense que c'est important de leur rappeler tous les enjeux du deuxième tour. Puis rappeler également qu'aujourd'hui, ensemble, c'est un groupe solide, uni, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas de NUPES, qui est finalement une alliance de circonstances pour permettre à un parti, à des groupes politiques de conserver leurs avantages, mais qui ne propose pas une vision politique pour la France. Je pense que c'est aujourd'hui un enjeu. Alors sur les résultats à proprement parler, eh bien, les résultats, bien évidemment, c'est encore une fois l'abstention qui est présente, qu'il faut combattre. C'est tout l'intérêt de mobiliser.
De 47% d'abstention, oui, dans cette circonscription.
Et donc il y a du travail effectivement encore à faire en termes de, on va dire, de conviction pour que les électeurs prennent conscience des enjeux de ce deuxième tour. Je pense que c'est tout l'enjeu aussi du deuxième quinquennat qui s'ouvre. C'est de changer aussi la méthode et être en proximité avec les citoyens. Je pense particulièrement à ce que l'on veut mettre en place sur les conférences des parties prenantes pour, sur les sujets essentiels, que ce soit l'éducation ou que ce soit la santé, eh bien, avoir cette proximité dans le dialogue et dans l'écoute.
On va venir au fond, Bertrand Bouygues. S'y a-t-il eu chez vous dimanche une pointe de déception à la lecture des résultats ? Vous êtes sorti en tête, bien sûr, mais avec un score 11 points inférieur à celui de 2017.
Alors une élection, c'est jamais gagné d'avance, bien évidemment, hein, mais l'essentiel, c'est de sortir en tête. Aujourd'hui, j'ai un socle de 13 000 voix avec un différentiel de 2 000 voix avec Madame Valérie Harel. Et demain, donc, il est essentiel de mobiliser tous les électeurs qui ne se sont pas mobilisés sur ce premier tour. Et aujourd'hui, on a des soutiens, hein, de poids qui, dans la campagne, se sont annoncés. Je pense notamment au président du département, Jean-Léonce Dupont, mais aussi au sénateur Alizard. Et je pense aussi au maire de Bayeux. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui se met en place. Et je souhaiterais remercier tous ces soutiens locaux, hein, tous ces élus qui viennent me soutenir dans cette campagne.
Est-ce que vous regrettez que Cédric Nouvelot ait décidé de garder le silence cette semaine et donc décidé de ne pas appeler à voter pour vous, Bertrand Bouygues ?
Eh bien, c'est le choix de Cédric Nouvelot et ça ne me...
Vous le comprenez ?
J'ai pas en fait à interpréter ces choix, c'est des choix d'abord individuels, c'est des choix de personnes, et donc c'est Cédric Nouvelot qui décide. Mais je sais que sur d'autres circonscriptions, certains se sont exprimés, je pense à Joël Bruno en faveur de Fabrice Vigoureux, en proximité justement à Caen.
Voilà. Valérie Harel, dans un communiqué, Xavier Brunswick, le candidat du PRG, cinquième du premier tour avec près de 4,5% des voix, a appelé ses électeurs à voter pour vous dimanche prochain, mais ce soutien, il l'a assorti d'une condition, que vous signiez une charte d'engagement portant sur la laïcité, l'Europe et la transition écologique. Vous l'avez signée, cette charte ?
Déjà, j'avais pas fini tout à l'heure, excusez-moi, mais je voulais aussi rajouter que ce matin, j'étais à Isigny-sur-Mer, j'ai rencontré énormément de gens, j'ai eu un très très bon accueil à Isigny au marché, et que les électeurs, des gens qui ont voté RN, vont voter pour moi également. Il y a un effet tout sauf Macron qui est impressionnant, vraiment impressionnant sur cette circonscription.
Mais je vais vous interroger là-dessus dans un instant, mais d'abord, cette charte de Xavier Brunswick, vous la signez ou pas ?
Concernant Xavier, on s'est eu par texto ce matin, on doit s'appeler ce soir pour discuter, donc je ne vais pas vous en dire plus pour le moment.
Vous leur parlez à ces électeurs RN, vous dites...
Je peux quand même rajouter par rapport à Xavier, je pense que c'est important qu'il puisse se positionner lui, même indépendamment du PRG, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il s'exprime très clairement, qu'il clarifie la situation, c'est-à-dire...
Il a dit « je soutiens Valérie Harel »
Excusez-moi,
si
je voudrais juste terminer ma phrase. Je pense qu'il est important que Xavier puisse dire si, oui ou non, il veut contribuer à l'élection, à la réélection du candidat macroniste, ou bien s'il souhaite soutenir son ancienne binôme du Rassemblement de la Gauche Écologie.
Donc vous souhaitez qu'il prenne la parole
demain
ou vendredi ?
Qu'il le fasse, s'il ne le fait pas, c'est... Mais je pense que il faut faire preuve de courage en politique, sinon les gens ne savent pas de quoi... Enfin, il va falloir à un moment donné se positionner, mais je J'ai plutôt bon espoir, parce que Xavier est quelqu'un de très courageux, il nous l'a montré pendant la campagne, donc à un moment donné, on va pouvoir parler de...
Il n'y a pas de gauche irréconciliable entre
vous. Non, pas du tout, non.
J'ai encore une ou deux questions très simples. À l'échelle nationale, Bertrand Bouygues, qui est arrivé en tête de ce premier tour ? Ensemble, comme l'assure le ministère de l'Intérieur, ou la NUPES, comme le disent les Insoumis ?
Alors, moi, je voudrais juste revenir sur ce qui vient d'être dit, parce que...
Vous avez le droit d'intervenir à tout moment, c'est un débat.
On voit en fait, dans les propos qui viennent d'être tenus, toute la difficulté et l'ambiguïté de cette coalition NUPES, où on est d'abord dans des logiques d'appareil et dans des querelles d'appareil, avant de proposer un programme politique pour la France. Il n'y a pas de projet, en fait, chez NUPES. C'est toute cette, on va dire, difficulté dans laquelle ils sont plongés, alors que... Et dire finalement que le projet politique, c'est d'être contre le président, c'est pas un projet d'être contre le président. Le projet, c'est qu'est-ce qu'on propose aux Français quand on est majoritaire.
On va avoir le temps d'en parler, mais j'aimerais que vous répondiez à ma question. Qui a gagné à l'échelle nationale ce premier tour ?
Eh bien, j'ai envie de dire qu'on le saura à l'issue du deuxième tour. Ce qui compte, c'est d'abord la victoire finale et de savoir si demain, la France est gouvernable avec une majorité solidement ancré en lien avec son président, ou si on part sur la logique NUPES et donc finalement un attelage bancal où les intérêts de ces groupes politiques sont totalement différents, que ce soit sur l'Europe, le nucléaire ou les institutions.
On va en parler dans un instant. Valérie Harel, qui est arrivée en tête à l'échelle nationale de ce premier tour ? Ensemble ou la
NUPES ? Ça intéresse personne, franchement.
Ah bah, manifestement, ça intéresse Jean-Luc Mélenchon, votre leader, qui...
Je pense que c'est
qui assure que la NUPES est en tête.
Oui, probablement que la NUPES est en tête, puisqu'il y a eu déjà un précédent, c'était sur la couleur, la nuance politique qui n'était pas retenue. Enfin, ça a été très compliqué. Moi, par exemple, quand j'ai déclaré ma candidature, j'ai pas pu mettre NUPES. J'ai dû mettre Europe Écologie Les Verts. C'est pas normal. Il y a quand même quelque chose qui va pas dans ce pays. On peut mettre que le nouveau parti d'Emmanuel Macron, c'est Ensemble, mais on peut pas mettre que ce rassemblement de la gauche et de l'écologie, c'est la NUPES, non ? On était obligé de mettre chacun son parti. Donc, moi, je veux bien qu'on polémique sur des résultats, mais à un moment donné, il faut être sérieux, il faut faire un décompte sérieux des voix, c'est tout.
Les deux coalitions que vous représentez sont les seules à pouvoir encore espérer obtenir une majorité absolue à l'Assemblée dimanche, mais il est aussi possible que l'une ou l'autre n'obtienne qu'une majorité relative. Est-ce que la France peut être ingouvernable ? Lundi matin, la question s'adresse aux deux, Bertrand Bouygues.
C'est le risque. C'est pour ça que depuis le début de cette campagne, on appelle à avoir cette majorité. La France, aujourd'hui, elle est dans une situation internationale compliquée, avec une guerre en Ukraine qui a des conséquences dans le quotidien des Français, qui va nécessiter des politiques ambitieuses pour lutter contre ces effets, que ce soit en fait sur le prix du gaz, le prix de l'électricité, le prix des matières premières. C'est tout l'intérêt aujourd'hui d'avoir une majorité. Le risque demain avec NUPES, c'est d'avoir un blocage institutionnel. Au pire moment où la France, elle a besoin justement de se rassembler et d'avancer.
On risque ce blocage institutionnel, Valérie Harel, lundi matin ?
Bah, première nouvelle. On a eu quand même depuis 86 trois cohabitations. Il s'est passé quelque chose de grave. Le pays a été bloqué, on n'a pas pu gouverner. Je comprends pas, je comprends absolument pas.
Alors,
ce débat.
Si vous obtenez une majorité absolue, le pays sera gouvernable. La question, elle est en cas de majorité relative pour l'un ou l'autre des deux camps. S'il y a majorité relative pour l'un ou l'autre des deux camps, s'il n'y a pas d'alliance possible ou difficile, est-ce qu'on n'est pas devant un blocage ?
Bah, non, moi, je trouve que le terme de blocage est quand même un peu trop fort, parce que on l'a vu, Emmanuel Macron, de toute façon, a gouverné par ordonnance ou à coup de 49-3. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Les institutions sont faites de telle façon qu'on peut gouverner même dans des situations compliquées.
Merci pour ces premières
réponses.
Alors,
juste préciser qu'on n'a pas gouverné à coup d'ordonnance ni de 49-3. Il y a eu un seul 49-3. Il y a eu des ordonnances et il y a eu majoritairement des textes qui ont été votés à l'Assemblée nationale à la majorité.
Et l'emploi du 49-3 qui est rappelons-le, extrêmement encadré aujourd'hui. Exactement. Et extrêmement limité. Valérie Yarel.
Oui, je voudrais quand même qu'on revienne aussi sur ce que M. Bouix a dit sur les propositions de type qui s'apparenterait à un peu plus de démocratie. Je trouve quand même que de mettre ça en avant après les 5 années qu'on vient de passer, après la crise des Gilets jaunes et après les fameux grands débats où il y a eu 2 millions de contributions qui sont parties aux oubliettes, plus sans compter l'Assemblée pour le climat dont aucune proposition n'a été retenue ou quelques-unes à la marge, je trouve que c'est quand même un peu se moquer des gens. C'est se moquer des gens de dire que du jour au lendemain, Emmanuel Macron va faire une politique va être dans une démocratie plus ouverte, plus consultative. Non, c'est faux. Enfin, monsieur Emmanuel Macron n'a pas l'intention de gouverner différemment que depuis 5 ans. On est dans une monarchie, dans une monarchie présidentielle, et on est l'exception en Europe. Hein. On est le seul pays où ça fonctionne de cette façon-là.
On va poursuivre ce débat, si vous le voulez bien, Valérie Yarel, dans une poignée de secondes. On va marquer une petite pause et on revient juste après.
Radio VSM, émission spéciale, législative 2022.